Nous allons reprendre, merci. Et je vais passer tout de suite, céder tout de suite la parole à Marie Poinceau, qui est rédactrice en chef de la revue Homme et Migration et par ailleurs responsable du département édition du Musée national de l'histoire de l'immigration.
Merci. Alors, nous avons eu à travers ces nombreuses interventions préliminaires des éléments de cadrage sur les migrations dans le passé, plus contemporaines, la question des représentations sociales des migrants et de l'immigration comme phénomène qui est structurel dans la société française, et également des éléments très concrets sur les trajectoires des migrants et leur face-à-face compliqué avec l'administration française. Cette table ronde va porter sur les enjeux des cultures d'origine et de la diversité culturelle en bibliothèque. Alors, avec une société française de plus en plus diversifiée, culturellement comme socialement, je pense qu'il faut continuer à réfléchir aussi au public des bibliothèques en termes de catégories sociales. L'arrivée des réfugiés en France a suscité ces derniers mois de nombreuses réactions et aussi des questions sur le rôle des institutions publiques dans l'accueil des nouveaux arrivants. Face à cette composante pluriculturelle des populations vivant sur un même territoire, les institutions, notamment dans le domaine culturel et pédagogique, s'interrogent sur leur mission et leur interaction avec les publics, qui sont complexes, hétérogènes, immigrés, migrants, immigrés, descendants de migrants. Comment tous ces publics sont-ils accueillis en bibliothèque de nos jours? C'est la réflexion que nous allons mener à l'occasion de cette table ronde, avec une réflexion d'abord des équipes sur la prise en compte de la dimension culturelle des publics, mieux connaître les publics, mieux les reconnaître également, comment identifier leurs attentes, leur culture, leur histoire, leur patrimoine linguistique et culturel, comment intégrer ces ressources au sein de la médiathèque, de la bibliothèque, à la fois comme composante des fonds, des collections, mais aussi sous forme de programmation. Donc on voit que les enjeux sont d'emblée très multiples en termes d'accueil, d'intégration et aussi de participation citoyenne des publics, puisque finalement les bibliothèques dans certains quartiers sont un lieu, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un lieu qui favorise la citoyenneté, c'est un lieu de service public qui est consacré à la vie de la cité. Donc les enjeux sont multiples, se posent des questions d'analyse des publics. Que sait-on, comment approche-t-on les publics quand on est une médiathèque ou une bibliothèque? Comment on contacte ces publics qui sont souvent éloignés, non seulement de l'institution même, mais aux marges de la société locale? Quelles sont les évolutions, les adaptations des collections des bibliothèques par les systèmes d'acquisition de fonds en langue étrangère sur des ressources interculturelles, sur des pédagogies d'enseignement des langues, par exemple, qui favorisent l'approche numérique ou l'approche auto-formative des langues? Quelle est la modification des services proposés au public en termes de médiation, de communication verbale ou écrite, en termes de multiculturalité, en termes de dialogue aussi entre ces cultures? Quelle est la mise en œuvre d'une programmation culturelle sous forme d'ateliers, d'heures de compte, d'ateliers de conversation et d'échange? Et enfin, quels sont les partenariats avec d'autres institutions, associations, collectifs présents dans le quartier? De nombreuses questions, et pour y répondre, trois intervenantes qui vont chacune prendre une quinzaine de minutes pour présenter leurs propos. Et ensuite, nous espérons avoir une bonne demi-heure pour échanger avec vous sur ces points. Alors, je vais donner la parole à Barbara Abdelila Bauer. Vous êtes linguiste, psychologue sociale et consultante indépendante. Vous travaillez beaucoup en relation avec les professionnels et vous avez fait paraître deux guides à l'usage. Un premier guide à l'usage de l'enfant, des enfants bilingues, et un deuxième guide sur le défi des enfants bilingues aux éditions de La Découverte. Vous allez nous parler de plurilinguisme, de diversité des cultures des migrants. Vous avez principalement travaillé sur la petite enfance et vous voulez nous expliquer les processus d'apprentissage linguistique et d'acquisition d'une deuxième langue auprès de cette catégorie de population.
Ah d'accord, je pensais que... D'accord, très bien. Alors écoutez, il faut d'abord que j'ouvre mon joli...
Alors, je vais en profiter pour présenter mes deux autres intervenantes, Naïma Yahi, à ma droite, historienne, déléguée générale de Pangée Nature, qui est un organisme de création culturelle contribuant à la promotion des cultures et contribuant aussi au dialogue entre les peuples, qui a mené une étude sur les publics dans 5 musées et qui va nous présenter principalement les résultats de cette étude. Et Penda Diouf à ma gauche, responsable de la médiathèque Ulysse de Saint-Denis, qui fait partie du réseau des médiathèques de pleine commune et qui va nous apporter une sorte de retour sur expérience sur 10 ans de pratique dans le domaine de l'accueil des migrants et de la place des cultures et des langues étrangères à la bibliothèque.
D'accord, donc d'abord merci beaucoup de m'avoir invité à cette journée de réflexion sur la diversité culturelle. Comme vous le disiez, je m'intéresse particulièrement à la diversité linguistique qui pour moi fait partie, qui est un corollaire de la diversité culturelle et particulièrement à la diversité linguistique des enfants. Et quand on parle diversité linguistique en France, dans un pays monolingue, on parle obligatoirement de bilinguisme ou plurilinguisme. Quand on parle de... je disais que la diversité linguistique fait partie de la diversité culturelle, tout simplement parce qu'une langue est façonnée par la culture, une culture s'exprime par les langues, et une culture n'existe pas sans la langue. Alors, quand je parle de culture, j'entends ce terme dans le sens anthropologique, bien sûr, c'est la culture avec un grand C, l'art, la littérature, le théâtre, mais c'est aussi cet ensemble de valeurs, de croyances et de traditions et la langue ou les langues qui sont partagées par un groupe d'hommes. En France, et vous allez voir, je parle d'enfants, mais en fin de compte, quand on parle des enfants, on parle des parents, futurs parents, donc on englobe aussi les adultes. D'ailleurs, en France, de plus en plus d'enfants arrivent ou grandissent dans des familles où une ou plusieurs autres langues que le français sont parlées. Ces enfants entrent après en contact avec la langue dominante, donc avec le français, en dehors de la famille. Ça peut être en crèche, en PMI, chez le médecin, à l'école et aussi en bibliothèque. Le résultat de ce, je parlais de contact des langues, mais quel est le résultat d'un contact des langues? Ben, c'est ce qu'on appelle en linguistique et en psycholinguistique le bilinguisme, voire le plurilinguisme quand il y a plusieurs langues en jeu ou en contact. Alors, pourquoi serait-ce important de s'intéresser, voire de promouvoir aujourd'hui, dans cette journée, le plurilinguisme, dans ce contexte-là? On peut dire, ne serait-ce pas préférable, comme on entend souvent, d'exiger des nouveaux arrivés ou aussi des anciens immigrés d'oublier leur langue et leurs origines, d'effacer leur passé, d'apprendre en urgence et au plus vite le français pour s'intégrer au mieux? On dirait plutôt pour... D'ailleurs, on est plus pour l'assimilation aujourd'hui, mais je ne rentre pas dans ce débat. Eh bien, la langue est un élément constituant de l'identité culturelle de l'individu et la reconnaissance de cette langue, la valorisation, on le sait, c'est prouvé, favorise l'estime de soi et la confiance en soi. Reconnaître chaque individu dans sa particularité et dans sa différence, c'est le premier pas quand on accueille quelqu'un, et c'est la première condition pour que cette personne qui veut s'intégrer puisse avoir envie de s'intégrer. Tous mes 15 minutes vont tourner autour de cela. Donc le maintien de la langue d'origine et la valorisation des compétences plurilingues facilitent, c'est prouvé, l'apprentissage des contenus pour l'enfant qui va être scolarisé, l'apprentissage des contenus scolaires dans cette langue scolaire qui est le français. Donc c'est simple, en fin de compte, il a été démontré que pour bien apprendre le français, qui est bien entendu notre but, et on veut que tous les immigrés, pour s'intégrer, apprennent le français, pour bien apprendre le français, il faut maintenir la première langue. L'apprentissage du français seconde langue passe par le détour de la valorisation de la première langue. Pourtant, la reconnaissance et la reconnaissance de cette diversité linguistique en France est assez difficile et difficilement reconnue du fait que la France s'accroche toujours à une idéologie monolingue ou unilingue. Pourtant, saviez-vous que la France est avec la Finlande le pays où il y a la plus grande diversité linguistique? D'ailleurs, lors de la dernière enquête famille de l'INSEE qui a été publiée en 2003, on a recensé 400 langues en France parlées, qui ont été parlées par les adultes quand ils étaient enfants. De ces 400 langues, 75 langues ont un statut officiel depuis 1999, le rapport Cerchilini. Ce sont les langues de France. Et d'ailleurs, la langue des signes française fait partie de ce patrimoine culturel que sont ces 75 langues de France. Savez-vous, vous le savez peut-être, ou vous le soupçonnez, que dans les grandes villes, plus de la moitié des élèves parlent une autre langue que français. Ces élèves sont donc bilingues ou du moins sur le chemin de devenir bilingues. Ce sont des bilingues potentiels, on peut dire. Alors, malgré cette grande diversité linguistique, le bilinguisme qui résulte donc de ce contact des langues est une expérience positive pour certains, une minorité en fin de compte, et une expérience plutôt neutre ou négative pour d'autres. Pourquoi ? On peut se demander pourquoi. Il faut se rendre à l'évidence que toutes les langues n'ont pas le même statut et l'origine de cette différence est là, c'est un des facteurs en tous les cas. Bien entendu, d'un point de vue linguistique, toutes les langues ont la même valeur. Il n'y a pas une langue plus difficile ou plus utile ou plus belle que l'autre, surtout quand il s'agisse de la langue de communication entre parents et enfants. Mais d'un point de vue social, toutes les langues n'ont pas le même statut. Il y a une hiérarchie qui est établie en fonction de quoi ? Ben, en fonction du pouvoir politique et économique du pays dans lequel cette langue est parlée. Dans nos représentations sociales, certaines langues valent donc plus que d'autres. C'est automatique, d'accord ? On valorise davantage un bilinguisme, l'apprentissage de l'anglais ou un bilinguisme français-anglais qu'un bilinguisme avec d'autres langues. Dans ces représentations, le bilinguisme est donc considéré comme un atout avec certaines langues et plutôt comme un handicap. D'ailleurs, avec ces autres langues, on ne parle pas de bilinguisme. C'est d'où la réticence de certains d'utiliser ce terme de bilinguisme quand on parle de public de migrants. D'accord ? Ce bilinguisme, c'est un handicap. Voilà. Ainsi, l'environnement social, donc les croyances, les attitudes, les valeurs qui sont véhiculées, va avoir un impact sur le développement plus ou moins harmonieux de ces deux langues, donc de ce bilinguisme chez l'individu et notamment chez l'enfant. Il est bien entendu plus gratifiant de développer un bilinguisme, comme je disais, français-anglais que français-turc ou français-islandais ou albanais, pour ceux qui ont vu le match contre l'Albanie hier, l'albanais, français bilingue, français-albanais, à quoi ça sert ? Dans notre pays, on a aussi beaucoup de mal avec cette notion de double appartenance. C'est un des stéréotypes aussi. Comment peut-on être d'ici et de là-bas ? Vous voyez, il y a énormément de stéréotypes négatifs qui tournent autour de certaines langues seulement, parce qu'on ne demande pas comment il est possible d'être bilingue français-anglais ou français-américain. Donc, en fonction du statut des langues en contact, il y a de nombreux mythes qui persistent encore, et qui sont particulièrement tenaces quand il s'agit de certaines langues qu'on appelle d'ailleurs minorées, ou les langues rares. On m'a dit, mais l'arabe, c'est une langue rare. Je ne sais pas. C'est aussi un de ces stéréotypes. Alors, quelques-uns des mythes rapidement. Vous savez certainement, le bilinguisme précoce entraîne confusion et mélange chez l'enfant, donc c'est extrêmement nocif. Bon, ça repose... Normalement, je fais des conférences d'une heure ou des formations de 3 à 6 heures et je détaille bien entendu tout ça. Là, très rapidement, cette affirmation est tout simplement basée sur la méconnaissance des mécanismes d'acquisition du langage. Deuxième mythe, le cerveau est à l'origine monolingue. Donc, deux langues à la fois, c'est une surcharge pour le cerveau. Il a été prouvé que c'est complètement faux. Chose très importante, on entend souvent, mais ces enfants qui doivent apprendre le français, le temps qu'ils passent à apprendre la langue de leurs parents ou à parler cette première langue, mais c'est du temps perdu pour le français. Il faudrait une immersion totale en français pour que ça rentre plus vite. Eh bien, juste un petit détail, on sait que le développement et le rythme d'acquisition de la grammaire dans une langue, chez l'enfant monolingue, est exactement le même chez un enfant bilingue qui acquiert deux langues en parallèle. Donc, ce n'est pas du tout vrai. Au contraire, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on dit le bilinguisme de langue, c'est un obstacle à l'apprentissage de l'écrit. L'apprentissage de l'écrit et de la parole, du langage oral, n'a absolument rien à voir. Ce sont des mécanismes totalement différents. Ce qui nous intéresse, donc, est de savoir comment ces idées fausses-là influence en fin de compte le développement du langage et l'apprentissage d'une seconde langue. Comment ça peut se faire ? Mais là, il faut qu'on s'intéresse au processus de socialisation. L'enfant est socialisé dans un environnement où donc ses valeurs, ses croyances, attitudes prévalent. Alors là, on a, en fonction qu'occupe la place du langage déjà, le fait de parler à l'enfant, de ne pas parler, d'utiliser le langage uniquement dans certaines circonstances, ça va avoir, ce comportement dans la famille va avoir un impact sur le développement du langage de l'enfant. La proximité ou l'éloignement de l'entourage, de l'écrit, bien entendu aussi. Le rapport aussi qu'entretient la famille avec sa propre langue d'origine, la valeur que lui donne la société, ces fameux stéréotypes. Ensuite aussi, le rapport de la famille à la langue culture dominante. Tout ça va faire que l'enfant qui va donc intérioriser toutes ses valeurs, ses comportements, bien, il va développer des mécanismes socio-psychologiques pour gérer ce double apport linguistique et culturel, ce double héritage. Et on sait que les dimensions affectives, la motivation, l'anxiété, confiance en soi ont des effets importants sur toute réussite, tout apprentissage et sur la réussite scolaire. Il résulte donc que la gestion de ce double apport va être différente en fonction de ses attitudes, ses valeurs. S'il y a double valorisation de la langue et culture, français, anglais par exemple, par les réseaux familiaux et les réseaux élargis, alors l'enfant peut très bien construire son identité culturelle harmonieuse, ce qui veut dire que les deux univers culturels ne sont pas en conflit, mais complémentaires, et il va construire, acquérir des compétences culturelles enrichies. Il va aussi acquérir ce qu'on appelle le bilinguisme additif, où les langues se nourrissent mutuellement, qui aboutit à cet avantage cognitif qu'on prête au bilinguisme harmonieux, au bilinguisme additif. Maintenant, si dans le cas contraire, et dans une grande majorité des cas, la langue et culture familiale est perçue comme inférieure, comme disent les psychosociologues, l'enfant a deux possibilités. Il peut privilégier un héritage culturel unique. Et quand je dis héritage culturel, je parle aussi de la langue, au dépens de l'autre. Donc, soit il s'aligne sur la culture de sa communauté, et là, on a des jeunes qui se trouvent en conflit. Les psychologues parlent de conflit de loyauté. On a bien envie de ressembler aux camarades français. On a envie de parler, mais on a peur de trahir la langue et la culture des parents si on excelle trop dans cette seconde langue. Donc, on s'arrête à un certain seuil de communication orale et tout simple dans cette acquisition de la seconde langue, du français. Soit il peut s'assimiler à la culture majoritaire et totalement refuser la langue des parents. Comme disait un petit garçon à sa mère, « Maman, arrête de me parler en arabe, ça fait honte de parler arabe. » Voilà. Et puis, il y a le cas extrême, si vous voulez, c'est cette deuxième possibilité, c'est ne s'aligner sur aucun des héritages culturels. Et là, ce jeune ou cette personne est réellement en conflit d'identité qui donne un sentiment d'aliénation et on parle d'anomie. Bon, ça, ce sont vraiment des cas extrêmes. Alors, la question qui se pose est de savoir comment faire du contact des langues une expérience positive, un avantage pour tous et non un handicap. C'est ça la question à laquelle il faut essayer de trouver des réponses. Il a été démontré que donc, la reconnaissance des savoirs et savoir-faire des nouveaux arrivants, alors le savoir-faire, c'est aussi savoir parler. Vous savez, quand un enfant arrive à l'école, souvent, il ne parle pas français. Très longtemps, on les appelait les non-francophones, c'est-à-dire ils étaient zéro, niveau zéro, non-francophones. Aujourd'hui, on dit allophones. Au moins, on leur reconnaît quelque chose, une connaissance. Mais ce savoir-faire des parents, le savoir-faire de l'enfant doit être reconnu. Alors, on sait que cette reconnaissance des savoirs et des savoir-faire améliore, comme je disais tout au début, la confiance en soi, l'estime de soi chez les parents et les enfants. Et quand on est confiant et quand on se sent reconnu dans ce qu'on est, quand on est confiant en ses capacités, on est motivé, on peut aller sereinement vers l'autre culture, l'autre langue, et on est motivé d'exceller aussi dans cette seconde langue. Il faut donc, moi je pense qu'il faut se servir, enfin je ne suis pas la seule, de la langue d'origine qui servirait comme une passerelle vers la langue d'accueil. Et on parle langue d'accueil, puisque on accueille les gens différents, les personnes d'origine étrangère. Alors, une manière de valoriser ce savoir-faire, donc ces langues, ce serait, pour les bibliothèques, et vous le faites certainement déjà largement, d'introduire les livres en toutes les langues dans toutes les bibliothèques. L'écrit joue d'ailleurs un rôle essentiel dans ce processus de valorisation, dans ce cercle vertueux valorisation-motivation. Il est établi que pour atteindre ce bilinguisme harmonieux et additif, il faut entrer dans l'écrit. Alors, entrer dans l'écrit nécessite un vocabulaire extensif, concret et abstrait. D'où l'importance. Alors maintenant, si ce vocabulaire est déjà acquis dans la langue maternelle, dans la langue d'origine, il y a un transfert. Le transfert se fait très facilement vers le vocabulaire de la seconde langue. Si ce vocabulaire n'est pas du tout ces concepts, le vocabulaire derrière, il y a des expressions abstraites, il y a des concepts, si ce n'est pas encore acquis dans la première langue, il n'y a pas de transfert qui va se faire. D'où l'importance du livre en langue d'origine pour les enfants. Et au Canada, alors là il y a un E et en trop, au Canada par exemple, il y a un exemple, enfin il conseille, au Canada on conseille à tous les parents de lire dans la langue d'origine, d'utiliser des livres pour enrichir et augmenter donc les connaissances dans la langue d'origine. Et je termine déjà, donc le défi pour notre société, c'est au fait d'une part de déconstruire ces mythes autour du contact des langues et d'oser parler de bilinguisme et essayer de faire en sorte que tous les enfants puissent accéder à un bilinguisme positif, additif. Pour ceci, il faut valoriser les langues et les cultures des familles en les faisant entrer dans le cadre institutionnel. Et la bibliothèque est un cadre de culture par excellence, une culture française par excellence, mais il faut que les langues et cultures étrangères puissent être reconnues, acceptées dans ce cadre institutionnel, bien sûr aussi à l'école. Ensuite, il serait important d'aider les parents en leur procurant justement du matériel linguistique et en les formant aux techniques de la lecture. On peut peut-être parler tout à l'heure, notamment la lecture interactive. Dans l'association que j'ai fondée il y a 10 ans, Café Bilingue, nous travaillons avec les écoles et nous essayons donc de faire en sorte que les langues des enfants entrent dans les écoles dans le cadre d'une semaine des langues qui, pour notre grand plaisir, a été repris par l'Éducation nationale cette année. Il y a eu une première semaine des langues du 9 au 13 mai passé. Voilà, et je vais vous dire merci, et je crois que j'ai fait...
Impeccable, merci beaucoup. On aura retenu, Barbara, de votre exposé que le bilinguisme est un facteur positif des apprentissages et des processus identitaires des enfants, et que valoriser les langues d'origine est une façon de créer des passerelles vers l'apprentissage de la langue française. Je pense que c'est très important de le rappeler. Mais aussi que, malheureusement, il y a des différenciations importantes d'ordre culturel et symbolique des langues en France. Et donc les bibliothèques, aux côtés des écoles peut-être, doivent travailler sur ces questions-là. Ce qui nous amène à se poser la question de la valorisation, de la promotion des patrimoines liés aux migrations. Et avec Naïma Yahi, qui est une historienne spécialiste de l'histoire culturelle des migrations en France, qui a contribué et même piloté une grosse exposition que nous avons accueillie ici il y a quelques années déjà sur l'histoire culturelle des Maghrébins en France, on va effectivement se poser cette question-là. Comment effectivement les musées rendent compte de ces patrimoines, alors linguistiques, culturels, enfin très divers, hein, puisque Naïma a aussi beaucoup travaillé sur le patrimoine musical lié aux migrations. On va voir un petit peu comment elle se dote de ressources importantes et quel type d'action elle mène pour assurer cette promotion des cultures d'immigration considérées comme marginales, en dehors de la société française, ne participant pas à la constitution d'un patrimoine commun. Naïma.
Je mets mon chronomètre pour les 15 minutes. Alors, j'étais très intéressée par votre intervention, madame, parce que si vous parlez de bilinguisme positif, je m'enrichis de cette... démarche concernant les langues sont aussi des objectifs quand on fait l'histoire de l'immigration et quand particulièrement dans le cas qui est le mien, quand on s'intéresse à l'histoire culturelle qui englobe la vie artistique, mais pas seulement, puisque l'histoire culturelle s'intéresse aussi aux supports que sont les livres, les disques et d'autres, j'allais dire, véhicules culturels que vous avez dans vos établissements. Alors, mon intervention va se scinder en deux. D'une part, mon action en tant qu'historienne et directrice d'association qui produit des contenus que vous accueillez dans vos bibliothèques, qui sont des outils d'autant plus démultipliés au service de cette question des publics d'origine étrangère ou français héritiers de cette histoire de l'immigration, mais aussi du grand public qui n'a pas forcément des origines étrangères, mais qui s'enrichit d'une histoire plurielle, d'un roman national renouvelé qui fait sa place à des populations qui sont dans notre pays depuis longtemps. Je crois que vous avez abordé la question du temps long avec des intervenants ce matin, et le musée en est la preuve. C'est une histoire ancienne, même si on a toujours l'impression de la redécouvrir à chaque nouvelle crise migratoire, comme l'été dernier. Donc, le second axe de mon intervention va porter sur une étude intitulée Intermède, que nous avons menée au sein de notre association Pangé Network. Donc, je donnerai les coordonnées au musée afin de vous donner les contacts si vous voulez recevoir le PDF de ce livre blanc, qui portait sur des préconisations autour d'une médiation interculturelle, donc des réflexions autour des méthodes de médiation et de formation du personnel des lieux que sont les musées. Ça a porté effectivement sur 5 musées, dont le Musée national de l'histoire de l'immigration, et aussi d'autres qui ont des actions plus localisées, pour comprendre quelles étaient les pratiques en termes de médiation pour ces publics cibles, puisqu'on va utiliser les termes techniques, ce qu'on dit problème, vous voyez, lapsus. Public de proximité, public empêché, public issu des quartiers populaires, et à l'intérieur de ces publics, les publics immigrés et leurs enfants, qui posent des questions, effectivement, de la diversité culturelle, la question de l'offre culturelle et d'accessibilité à cette offre, et de l'inclusion de ces populations dans la médiation classique des établissements concernés. Sur mon action en tant qu'historienne et directrice d'association, effectivement, j'ai eu le plaisir d'être commissaire d'une exposition dédiée à un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France, dans cet établissement, dans ses toutes premières années. Je crois que c'était la deuxième ou troisième exposition du musée. Il faut savoir que c'était déjà nouveau au niveau du musée, en France, de mettre en espace une histoire de l'immigration, qui plus est quand on parlait d'histoire culturelle, pour une narration sur l'histoire de l'immigration qui souvent est un point aveugle. On ne parle pas de culture, on ne parle pas des langues. On ne les entend pas, on ne les lit pas, puisque c'est peut-être aussi l'histoire propre de notre pays, cette centralité de la langue française, même si ça évolue et que la reconnaissance des langues de France, dont font partie l'arabe, le berbère et d'autres langues, le yiddish. Et donc la question qui se pose ici, c'est qu'on parle dans le cadre franco-français. Il ne s'agit pas de parler de transnationalisme avec les pays d'origine ou les voisins européens. Il s'agit de parler d'une situation franco-française, ce qui est votre cas dans vos bibliothèques. Vous n'avez pas forcément les outils pour promouvoir une connaissance, par exemple, des écrivains étrangers de langue française. Vous n'avez pas forcément les outils pour parler de chansons de France, mais dans des langues vernaculaires. J'ai eu le plaisir de diriger une compilation de musique autour des chanteurs maghrébins qui se sont produits, qui ont enregistré et diffusé leur musique depuis la France des années 30 aux années 70. Je sais que certaines bibliothèques le proposent dans leurs discothèques, mais c'est ce type d'outils qui sont nombreux. Il y a d'autres chercheurs, d'autres intellectuels, même d'autres artistes qui ont proposé, par exemple, des disques, des livres, des films, qui pourront garnir les étagères de vos établissements. Et je sais que vous êtes très proactif sur ces questions, mais si les outils n'existent pas, vous avez du mal à les proposer, nous sommes d'accord. Donc nous, on est de l'autre côté du miroir, on essaye de synthétiser, de donner à voir, à entendre, à connaître des choses qui se sont passées dans notre pays, mais qui sont méconnues. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec la discothèque de l'Institut national de l'audiovisuel, parce que celle-ci a des archives extraordinaires d'émissions de radio de l'ORTF, d'entretiens radiophoniques ou autres, des opérettes, par exemple, dans des langues d'origine qui ne sont pas diffusées dans les éditions de l'INA. Et pourquoi elles ne le sont pas ? Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ne serait-ce que de qui parle, de quoi s'agit-il. Ils n'arrivent même pas à décrire les fiches d'autorité de leurs archives sur ces 78 tours d'émissions en arabe ou en kabyle qui ont été enregistrées à l'époque dans les années 50-60 sur les antennes de l'ORTF à destination à l'époque, on disait, des publics indigènes. Donc ces productions qui existent, qui sont des archives, on a le même phénomène à la Bibliothèque nationale de France. Moi, je vous parle toujours du cas particulier des Maghrébins parce que c'est ma spécialité, mais vous pourriez avoir la même conversation avec des historiens spécialistes des Italiens ou d'autres communautés, des Suisses. On a comme ça des traces patrimoniales, musicales, intellectuelles et autres, qui sont présentes, par exemple, dans les archives photographiques du ministère de la Culture, dans les archives sonores de l'Institut national audiovisuel, au dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, mais qui ne sont pas intelligibles et qui, du coup, ne sont pas diffusées et qui n'arrivent pas jusqu'à vos établissements. Et cette question de l'inclusion, ou en tout cas de l'estime de soi des populations bilingues pour certaines communautés d'origine étrangère, on peut retrouver un lien avec ces problématiques sur la question du patrimoine, de ces patrimoines de France. Je n'ai pas dit français, j'ai dit de France. Parce que, par exemple, ces chanteurs russes des années 20 qui enregistrent à Paris, dans les cabarets de Pigalle, ces chanteurs kabyles qui enregistrent chez Pathé Marconi ou Columbia dans les années 50, ces écrivains pour lesquels on a plus d'accès puisqu'ils écrivent en langue française, mais d'autres, des dissidents chiliens qui publient de manière clandestine ou dans des maisons d'édition militantes. On a comme ça des corpus, j'allais dire, qui irriguent notre patrimoine et qui ne sont pas connus, mais qui émergent grâce au travail de militants, d'associations ou de chercheurs qui, à la fin, produisent des supports qui peuvent être des outils pertinents pour les publics. Ça, c'était pour la dimension, en tout cas, de production d'outils qui peuvent nourrir votre travail de médiation. L'autre aspect de mon intervention, et je vais un peu vite pour laisser la place au débat, c'est que cette étude, donc Intermed, n'a pas porté sur des bibliothèques, mais sur des musées, mais, je vais dire, embrasse des problématiques qui sont aussi celles, souvent, de vos établissements, notamment en termes de propositions de programmation culturelle, de mise à disposition des collections ou d'animation autour de ces collections. Alors, je n'utilise pas forcément les bons vocabulaires, je ne suis pas spécialiste des bibliothèques, mais simplement dire, puisque j'ai le plaisir de souvent intervenir dans des médiathèques et auprès de ces publics, certaines préconisations de l'étude pourraient peut-être être mises en débat et considérées dans cette matinée d'échange autour justement d'une inclusion de ces publics. Donc ce que nous avons appelé la médiation interculturelle, c'est de dire, par exemple, nos habitus en matière de médiation s'appuient sur des repères culturels, intellectuels, visuels, linguistiques, qui sont ethnocentrés. Voilà, qui ne connaît pas la Joconde, qui ne connaît pas Molière, etc., etc. Donc on a comme ça des repères de médiation qui sont d'une culture dominante, tout à fait recevable et que nous partageons souvent tous, mais qui ne sont pas toujours opérants pour des publics d'origine étrangère, dans des situations parfois de précarité et très peu au fait d'une, j'ai envie d'utiliser des gros mots comme consommation culturelle, mais qui n'ont pas accès à l'offre culturelle pour plein de raisons, et qui, quand elles ont accès dans le cadre d'une action, par exemple l'apprentissage de la langue française dans le cas des groupes Alpha Fleu, dans le cadre d'un accompagnement social dans les collectivités territoriales qui accompagnent des groupes, souvent des groupes de femmes, des groupes de jeunes déscolarisés, par exemple dans les missions locales, ou d'autres dispositifs, donc ceux qu'on appelle les personnes relais dans le jargon de la médiation, sont des alliés pour permettre une inclusion de ces publics dans une médiation plus pertinente et qui permettrait peut-être, on peut rêver, une fréquentation et en tout cas un usage plus fréquent de ces populations des outils, des équipements et de l'offre culturelle qui existe à proximité. La première préconisation, ça a été l'évaluation des outils de mise en place de médiation. Parce qu'on ne parle pas d'un terrain neutre ou en tout cas d'un terrain inexistant. Il y a déjà des outils, il y a déjà des propositions de médiation qui sont assez originales, qui existent, qui sont parfois très, très intéressantes, parfois peu opérantes, mais on ne sait pas à l'heure actuelle de manière très précise à quel point les dispositifs sont diversifiés et opérants. Donc cette première préconisation, c'est déjà de voir ce qui existe. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place à destination de ces publics du champ social et notamment des primo-arrivants. Je pense à ce qu'a fait par exemple le Musée national ici pour les publics alpha-fleux, pour lesquels l'établissement a proposé des guides spécifiques pour les personnes relais qui enseignent le français langues étrangères le français facile pardon à ces publics primo-arrivants. On a par exemple la question de la mise en réseau des outils de médiation dans les bibliothèques, ce serait possible, mais aussi pour les musées, pour savoir effectivement qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui peut être dupliqué dans d'autres établissements. On a par exemple aussi la possibilité de sensibiliser les personnels d'accueil et d'accompagnement des publics du champ social à ce qu'il y a dans vos établissements. Par exemple, prévoir un temps de rencontre avec des personnes relais de diverses structures d'accueil de ces populations éloignées de l'offre culturelle pour leur proposer, en tout cas leur montrer comment fonctionne votre établissement, ce que vous proposez déjà. Bon, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais ce n'est pas fait partout. Donc ça pourrait être intéressant de le proposer, en tout cas à un réseau d'interlocuteurs identifiés qui ont accès à ces populations, qui pourraient être des alliés dans cette démarche d'aller vers ces publics. Il existe aussi des financements spécifiques pour les projets à destination de ces publics du champ social qui pourraient vous aider à démultiplier vos forces en interne pour dédier du temps à créer des outils, à créer des moments pour ces publics parce que, bon, au long cours, il est évident que vous n'avez pas toujours le temps et la possibilité de développer des outils spécifiques pour ces publics. Et je pense à un mécénat de proximité qui pourrait être sollicité de plus en plus souvent en direction et en faveur de ces publics. Il y a des dispositifs au ministère de la Culture et des dispositifs dans les collectivités territoriales, notamment au niveau régional et souvent départemental. Autre préconisation que nous avons dégagée de cette étude, c'est l'aménagement d'un espace et de temps réservé à l'échange informel. Ce sont des publics qui ont un rapport à la langue et à l'écrit, et vous l'avez démontré, qui n'est pas celui du grand public. Et cette difficulté de la langue et du rapport à l'écrit doit être prise en charge en permettant peut-être une oralité et des échanges informels. Et pour ce faire de manière très pratico-pratique, c'est ce que nous avons observé, c'est de le prévoir dans le temps de visite ou dans le temps d'accueil de ces publics avec des espaces et un moment dédié à ces échanges informels. Et pas dupliquer une méthode de médiation qui ne le propose pas. D'autres éléments concernant la médiation, je vous le disais tout à l'heure, prendre en compte spécifiquement le public en cours d'alphabétisation ou d'apprentissage de la langue française, ça a été dit tout à l'heure. Et peut-être aussi impliquer un certain nombre de personnes déjà de l'établissement qui auraient des compétences particulières parce que dans une autre vie professionnelle, elles auraient été, par exemple, éducateurs ou éducatrices, par exemple, enseignants, par exemple, elles auraient travaillé dans le cadre d'un service d'action sociale d'une collectivité territoriale et voir par rapport aux ressources humaines de l'établissement qui serait celui ou celle qui serait l'interlocuteur privilégié des personnes relais. Parce que ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'il était plus pertinent de dédier une personne spécifiquement comme interlocuteur à l'extérieur sur cette question du public du champ social, que pourrait être par exemple un centre social, un service d'action sociale, un centre de formation qui prend en charge les primo-arrivants, etc. Ils ne savent pas toujours être aiguillés quand ils sollicitent un établissement culturel, que pourrait être la bibliothèque, le musée ou autre. Et en termes d'outils, nous en avons parlé sur cette capacité à mettre en synergie des outils déjà existants. Il serait aussi tout à fait pertinent, du coup, d'avoir un annuaire regroupant ces personnes référentes. Je ne connais pas les réseaux des bibliothèques, mais j'imagine que vous avez déjà des outils de ce type pour savoir... peut-être je m'avance, mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez, vous, en termes de mise en réseau de vos actions, peut-être inclure cette dimension du public du champ social dans la mise en avant des coordonnées des personnes référentes dans vos établissements. Et enfin, j'irai vite pour ne pas trop m'attarder sur mon intervention. Peut-être, dans le cadre de la formation professionnelle des personnes de vos établissements, c'est ce que nous, on a préconisé pour les musées, proposer une formation spécifique à destination des personnels d'accueil et de surveillance des établissements muséaux et en l'occurrence peut-être des bibliothèques, qui n'ont pas toujours aussi un savoir-faire en termes d'accueil de ces populations qui ne sont pas elles-mêmes habituées à fréquenter un musée, une bibliothèque. Je vous donne un exemple. On a ressenti certaines réticences et parfois des problèmes assez poussés parce qu'on arrive avec un groupe et bon, n'ont pas la pratique de ces lieux-là, donc ils ne savent pas, par exemple, que dans un musée, on ne parle pas à voix haute, on ne touche pas aux œuvres, etc. etc. Donc il s'agit simplement de leur expliquer, de ne pas se braquer sur ces détails qui peuvent être très logistiques, mais qui peuvent donner des situations de tension assez fortes. On a eu des cas un peu compliqués d'expulsion de visiteurs dans des musées de type Louvre, Musée d'Orsay, etc. Des personnes qui n'étaient jamais venues dans un musée, qu'on a tout de suite perçues comme étant des troubles faits ou des troublions, en tout cas des gens qui n'étaient pas à leur place. Donc c'était la parole du surveillant contre celle des visiteurs et du personnel relais qui était avec elle. Et on voit tout de suite que de part et d'autre, il y a besoin d'expliquer, comment ça se passe dans cet espace-là, etc. Et de l'autre côté, il y a eu besoin aussi de faire tomber certains stéréotypes en expliquant que ce n'est pas parce que c'était des populations qui étaient éloignées de l'offre culturelle qu'elles allaient dégrader l'établissement, mal se comporter dans l'espace de l'établissement, etc. etc. Donc on sent qu'il y a des habitudes à prendre en termes d'accueil de ces publics et les personnels d'accueil et de surveillance sont très demandeuses de formation sur ces questions-là et donc de sensibiliser les professionnels et aussi les établissements au dispositif qui existe, à la connaissance des outils de médiation et aussi à la manière dont peuvent se passer ces visites, remettre un peu en cause nos repères de médiation en termes la manière de mener la médiation, peut-être de partir des publics pour amender sa médiation et permettre peut-être une plus grande inclusion de ces publics. Et mon dernier mot, c'est de dire aussi, peut-être en amont, voir comment ces publics-là peuvent être impliqués dans la programmation des établissements. C'est ambitieux, je ne vous le cache pas, mais peut-être dire, écoutez, peut-être sur un cycle de projection de films, sur un cycle de rencontres, sur un cycle d'animation, peut-être avec un, deux ou trois groupes, réfléchir avec leur personnel relais, à savoir quelles seraient leurs envies, leurs demandes, pour qu'effectivement elles soient plus incluses dans la proposition qui est faite, et bien sûr travailler sur le temps long avec ces groupes. Il ne s'agit pas de démultiplier le nombre de groupes, mais plutôt de les suivre sur au moins une saison, si je peux parler de saison pour les bibliothèques, permettant d'éprouver en tout cas l'accès à l'offre culturelle sur un temps long. Voilà, j'étais bavarde, donc je m'arrête là. Merci.
Donc on aura retenu effectivement l'effort d'élargir les ressources du patrimoine artistique et culturel, sensibiliser les équipes, aménager des espaces, notamment pour des échanges informels, et s'intéresser effectivement aux compétences requises pour ces fonctions de relais. Merci Naïma. Penda Diouf, vous êtes responsable d'une médiathèque qui s'appelle Ulysse, alors c'est déjà l'évocation d'une épopée, et vous faites partie du réseau des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, qui est un réseau, pleine commune, pardon, qui est un réseau qui depuis plus de 10 ans réfléchit sur cet accueil des migrants, donc c'est un retour sur expérience peut-être que vous allez nous proposer, avec toute une série d'actions, d'initiatives, qui actuellement, si j'ai bien compris, font l'objet d'une réflexion, notamment sous forme d'un groupe de réflexion. Voilà, un groupe de travail sur les publics. Je vous laisse la parole. Alors, merci.
Bonjour à tous, je vous remercie tout d'abord pour cette invitation et pour la richesse des interventions précédentes. Voilà, donc effectivement, je suis responsable d'une médiathèque qui s'appelle Ulysse, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Pleine Commune. Donc la communauté d'agglomération de Pleine Commune regroupe 9 villes, 400 000 habitants, et c'est une communauté d'agglomération qui a été créée en 2005. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez voir la proportion en fait de Français de naissance habitant sur le territoire de Pleine Commune, à savoir 57%, avec un total d'étrangers de 29% et des Français par acquisition qui représentent 14% de la population. Alors lorsqu'on dit Français, lorsqu'on dit étrangers, ça a été précisé tout à l'heure, mais ce sont des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Et lorsqu'on parle de Français par acquisition, c'est des Français qui ont obtenu la nationalité française après la naissance. Donc il y a 134 nationalités qui se côtoient sur le territoire de Pleine Commune. J'habite moi-même un quartier à Aubervilliers où il y a plus de 160 langues qui se côtoient. Donc il y a une diversité culturelle qui est très riche et qui est très importante. Alors, je ne l'ai pas précisé, pardon, mais ces chiffres, en fait, viennent du... sont issus d'un... d'un recensement, en fait, de la, du service développement économique, en fait, de Pleine Commune. Voilà. Donc, je vais commencer, en fait, par vous présenter les collections, puis vous parler des animations et des services qui ont été mis en place dans les médiathèques. Alors, en jeunesse, toutes les médiathèques du réseau de Pleine Commune bénéficient en fait d'albums en langue étrangère. Alors, aujourd'hui, ça représente 5428 imprimés qui sont dans différentes langues. Il peut y avoir du tamoul, du turc, de l'anglais, de l'arabe, du berbère, du chinois, du portugais, du croate et de l'allemand. Donc, cela permet plusieurs choses. Alors, à la fois, symboliquement, je pense que c'est un acte qui est très fort. Cela permet aussi aux parents de lire des histoires dans leur langue maternelle. On en parlait tout à l'heure. Cela permet aussi de donner de la visibilité aux cultures des populations qui vivent sur le territoire. Cela permet à l'ensemble des usagers d'accéder à un large choix de documents en langues étrangères et aussi de réaffirmer un principe, à savoir que les médiathèques sont ouvertes pour tous. Alors, pour les collections adultes... ce que je voulais préciser, mais ça a déjà été dit tout à l'heure, c'est que les apprenants qui se retrouvent en situation de bilinguisme additif réussissent davantage que ceux qui ont subi une dévalorisation de leur culture ou de leur langue d'origine par l'école ou par la société. Voilà. Mais ça a déjà été précisé. Concernant les collections pour adultes, tout support confondu, il y a 6900 documents qui ont été en fait dispatchés dans les différentes médiathèques du réseau de Pleine Commune, selon trois critères qui sont en train d'évoluer, à savoir les langues enseignées dans les lycées du territoire, des fonds préexistants à la création du réseau de Pleine Commune, à savoir le fonds Tamoul qui existait déjà et qui a été donné par une association aux médiathèques de la Courneuve, et ensuite les statistiques sur la population des villes, comme on a pu le voir précédemment. Alors, pour l'apprentissage des langues, il y a des propositions en anglais, en espagnol, en allemand et en italien. Et pour les locuteurs, mais aussi pour les personnes qui souhaitent approfondir leur connaissance de ces langues-là, il y a aussi l'arabe, le portugais, le chinois, le tamoul et le turc. Alors, on rencontre quelques difficultés dans cette offre documentaire, à savoir pour l'arabe. L'arabe qui est proposé dans les médiathèques du réseau, c'est de l'arabe littéraire, et les populations qui sont présentes sur le territoire sont des populations maghrébines, donc ils vont parler un arabe dialectal. Donc, marocain, algérien ou tunisien. Et il faut dire aussi que les maisons d'édition sont présentes, existent, mais elles sont plutôt dans les pays du Moyen-Orient et du coup proposent un arabe qui est dialectal, qui n'est pas forcément lu, compris par les populations qui sont présentes sur le réseau. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il y a une forte demande aussi dans les médiathèques pour les langues africaines. Et c'est vrai qu'il s'agit beaucoup de langues orales, peu écrites, où l'édition reste encore assez rare, mais il y a de plus en plus d'initiatives qui se font actuellement, notamment la collection, chez Zulma, en fait, une collection qui est toute récente, qui s'appelle Seytou, qui a été créée par un écrivain, Boris Boubacar Diop, qui propose en fait des livres en fait, des auteurs francophones en langue wolof. Voilà. Et ensuite, il y a différentes aussi plateformes numériques qui existent, notamment Kidilangue, j'ai les noms, je vous les donnerai tout à l'heure si vous le souhaitez, qui existent autour des langues, des langues africaines. Alors, pour résumer, je dirais que ces collections ne s'adressent pas uniquement aux publics qui sont non francophones, aux publics cibles, elle s'adresse aussi à l'ensemble des usagers qui souhaitent lire et s'investir dans une langue étrangère. Il y a aussi des supports dématérialisés qui ont été proposés par l'ensemble du réseau de lecture publique, à savoir la médiatique, où vous pouvez trouver des logiciels d'auto-formation en langue, notamment Rosetta Stone, et aussi des fonds en français langue étrangère et des méthodes de langue. Donc sur ces supports dématérialisés, il y a beaucoup d'outils en lien avec l'anglais, donc comme Kidilangue, Anabac, Maiko, Speaky Planet, et les magazines vocables en anglais, allemand ou espagnol. Il est intéressant d'avoir des fonds en langues étrangères, mais il est aussi intéressant de pouvoir communiquer sur ces fonds et pouvoir donner l'information au public intéressé. Donc, différents flyers en fait, ont été traduits en 6 langues, à savoir l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe, et le portugais et le tamoul. J'en ai quelques exemples ici que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez. Voilà, alors, par exemple, vous avez celui-là. Vous avez celui-là aussi en tamoul. Oui, je les ai ici, voilà. Donc là, vous avez un exemple en espagnol. Là, vous avez le tamoul, celui que je viens de présenter ici. Et le flyer en anglais. Pour expliquer, en fait, tous les services qui sont proposés par les médiathèques de pleine commune. Vous avez aussi une collection qui a été créée, qui s'appelle Lire, écouter, voir, et qui concerne 3 langues, le turc, le tamoul et le chinois. Donc il se scinde en 2 parties. Il y a une partie catalogue qui présente les documents du fond des médiathèques. Et il y a aussi une partie regard avec des portraits des habitants. J'en ai aussi un exemplaire que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez et qui est là. Donc là, c'est en langue turque. Il y a aussi la dernière chose, le mode d'emploi, donc le mode d'emploi qui permet de savoir comment s'organisent les médiathèques. Donc au moment de l'inscription, en fait, chaque usager se voit remettre le mode d'emploi des médiathèques, dans lequel il retrouve l'ensemble des services proposés par les équipements. Et ce mode d'emploi a été traduit en 2 langues, l'anglais et le chinois. Donc je dois avoir un exemplaire en anglais et en chinois aussi. Voilà. Donc pour accompagner aussi donc cette proposition de fonds, il y a des animations qui sont créées, qui sont organisées régulièrement par les bibliothécaires. Donc il y a eu des temps forts organisés autour du lancement des plaquettes Lire, écouter, voir, notamment à Aubervilliers, autour du chinois. Il y a aussi c'est aussi la possibilité de communiquer sur l'ensemble des fonds qui existent sur le réseau, et c'est aussi créer du lien entre les différents publics. Alors là, par exemple, c'est un ensemble d'animations qui a été organisée en lien avec le avec, pour valoriser en fait la culture turque, donc exposition Ebru, reflet de la diversité culturelle en Turquie, des concerts de musique kurde, des conférences et des débats sur la diversité culturelle en Turquie, des projections de films, des séances de contes en partenariat avec les associations turques du territoire et l'association Ville et Musique du Monde. Il y a eu aussi des animations autour de la fête de la Lune et du Nouvel An chinois, notamment à Aubervilliers. Donc c'est aussi l'occasion de présenter le fonds, mais de créer du lien entre différentes personnes. Pour les animations autour de la fête de la Lune, elles sont aussi organisées en partenariat avec l'association des commerçants chinois d'Aubervilliers. Donc toujours un ancrage très, très territorial, essayer de travailler un maximum avec les partenaires, avec les personnes qui habitent sur le quartier ou sur le territoire. Et aussi, on a un festival de contes qui s'appelle Histoire commune. Donc, c'est le premier festival de contes d'Île-de-France qui existe sur toutes les médiathèques du réseau et aussi dans les bibliobus. Il s'organise sur 2 saisons. Et là, nous avons une nouvelle formule de ce festival de contes qui travaille donc beaucoup sur l'oralité, pardon, mais aussi beaucoup sur les contes en bilingue. Pour les différents services qui peuvent être proposés en médiathèque, on en a déjà évoqué quelques-uns précédemment. Il y a effectivement, bien sûr, les visites de médiathèque avec les groupes constitués. Donc, il s'agit de présenter les services en fait en partenariat avec des associations de quartier. Et il y a aussi la présentation des fonds FLEU, de la médiatique et des autres ressources documentaires. Et bien sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, essayer de trouver des moments un peu... essayer d'avoir des moments en dehors en fait de ces moments officiels de visite pour discuter voilà, de façon un peu informelle. Il y a aussi les ateliers de conversation, donc c'est permettre la conversation en fait en langue française dans les médiathèques du réseau, mais toujours de façon conviviale, essayer voilà, d'avoir des moments d'échange. Alors, ces ateliers de conversation se font toujours en partenariat avec des associations. Alors là, c'est la médiathèque Ulysse, justement, où je travaille. Et l'atelier de conversation se fait avec l'association Femmes du Framboisin, qui est une association qui travaille beaucoup sur l'insertion des femmes primo-arrivantes. Il y a aussi les écrivains publics, donc, qui sont de plus en plus nombreux dans les médiathèques de pleine commune et qui accompagnent en fait, aux démarches administratives les habitants qui le souhaitent. Donc là, c'est une photo qui a été prise, je crois, à Aubervilliers avec l'association Pierre Dusserre, qui est une association qui travaille sur les relations franco-chinoises. Voilà, et dans cette idée de... d'accompagner les publics, il y a aussi à la fois accompagner les publics, mais aussi accompagner les agents, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc un volet formation en fait a été organisé pour donner une meilleure connaissance en fait des publics, pour adapter l'offre documentaire et pour réaliser des animations de qualité. Donc il y a eu, nous avons des matinées de formation thématiques qui s'appellent les experts, où on demande en fait un expert en fait de venir nous parler de certaines choses en lien avec l'actualité des médiathèques. Donc il y a M. Béraa qui est venu pour nous parler de la communauté chinoise, et on a eu aussi un autre expert sur les adultes en parcours d'insertion avec Mariella Di Ferrari. Donc ce sont des interventions qui durent 3 heures, 1h30, 2 heures d'exposé, et ensuite discussion et rencontre avec les différents agents. Alors là, c'était des formations théoriques. On a eu aussi des formations pratiques, notamment pour les ateliers de conversation avec Marie-Claire Nassiri, qui se sont déroulés sur 3 jours. Donc la première, sensibilisation pour mettre en place des activités contextualisées et interactives autour de la communication orale. Les deuxièmes jours, c'était autour de la construction de programmes et d'activités pour les ateliers de conversation. Et enfin, le troisième jour, un retour d'expérimentation, réajustement si besoin, discussion, formalisation. Alors en conclusion, je dirais que si la légitimité de tels services n'est pas à remettre en cause, elle peut faire l'objet parfois de réticences. Alors l'importance des partenariats est dans ce cadre-là essentiel pour développer des services de qualité et instaurer bien sûr un climat de confiance. Il est donc nécessaire d'user de pédagogie et de développer des compétences spécifiques pour un accueil bienveillant, avec une politique assumée et volontariste, sans assignation, ce qu'on disait tout à l'heure, mais au plus près des besoins des publics concernés. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a eu tout un travail d'organiser par un groupe sur accueillir dans les médiathèques de pleine commune, avec la réalisation d'un carnet de bord. Et dans ce cadre-là, en fait, un groupe a été créé qui s'appelle le groupe Langue maternelle pour travailler sur la question des langues. Donc j'ai été chef de projet sur ce groupe qui va intégrer un groupe un petit peu plus large qui s'appelle le groupe service, avec tous les services qui peuvent être mis en place pour les publics éloignés des médiathèques et des lieux de culture. Pour terminer, voilà, je voulais terminer avec un proverbe arménien qui dit « Autant tu connais de langues, autant de fois tu es un homme ». Voilà, merci.
Donc, nous avons eu une table ronde qui est passée de l'analyse générale des processus linguistiques jusqu'à des actions très pratiques. J'espère que ce mélange des approches vous a intéressé. On va maintenant vous donner la parole pour des commentaires, des questions, des précisions et toute forme d'expression. Avant de conclure cette matinée qui a été très chargée.
Alors, nous pouvons faire circuler le micro. Donc
alors,
si, en attendant,
je vais peut-être parler aussi de la revue Hommes Immigration, puisqu'on oublie toujours, quand on est soi-même animateur, de parler de ce qu'on fait. La revue Hommes Immigration a produit beaucoup d'ouvrages, de numéros sur des questions qu'on a abordées ce matin. J'en veux pour preuve un numéro sur les langues et migrations qui a été fait en partenariat avec la DGLFLF, qui chaque année avec nous, en novembre, organise une journée d'études sur la thématique migrer d'une langue à l'autre. Nous avons très récemment publié avec la coordination d'Yvan Gasto justement tout un travail autour des représentations de l'immigration, comment dans les années 80 on observe un basculement dans les représentations de ce qu'est l'immigré dans la société française. Et puis un numéro sur les frontières qui accompagne l'exposition que vous verrez tout à l'heure et qui donc vous apporte des travaux les plus récents possibles sur l'approche géopolitique des frontières avec bien sûr la façon dont les politiques publiques mènent ce contrôle et cette répression, mais aussi comment les migrants vivent ce passage des frontières très concrètement, émotionnellement. À vous les questions.
Alors moi j'ai une question pour Penda Diouf. Est-ce que vous pourriez préciser, je pense que c'est une question bête, mais c'est juste pour savoir, avoir un exemple précis, la fréquentation, en fait, est-ce que vos animations, toute la médiation que vous avez mise en place a développé la fréquentation de la bibliothèque par ces publics-là? Et si oui, en quelle proportion, en fait?
Alors, je vais prendre par exemple le cas d'Aubervilliers. Effectivement, les animations et tout ce qui a été mis en place autour de la médiation, etc., rencontre pas mal de succès. Je pense qu'à rencontrer son public finalement. Et par exemple, pour parler un peu du jargon, hein, au niveau des taux de rotation des documents en chinois à Aubervilliers, ils sont très très très, quoi, ils sont très importants, quoi, vraiment. Largement plus que pour d'autres documents. Voilà. Non, après, c'est vraiment aussi parce que les équipes se sont emparées de cette question-là et la portent au quotidien, que ça fonctionne.
Si l'offre suscite le développement des publics et la consultation des fonds, est-ce que les bibliothèques sont en mesure de proposer aussi que les publics constituent des offres, enfin, viennent à vous pour vous proposer des initiatives via les associations, par exemple, ou d'autres formes de médiation?
Oui, ça peut arriver que pour des, par exemple, que pour des animations culturelles, elles soient organisées en collaboration, soit avec des associations, soit avec des habitants. Ça, c'est des choses qui sont de plus en plus, qui se font de plus en plus.
Moi, j'ai une question sur le budget. Parce que souvent, on vous dit... Bon, on n'a pas de budget pour faire ça. Comment ça se passe chez vous?
Après, je parlais de politique volontariste, c'est ça aussi. C'est essayer de faire en sorte de se donner les moyens, en fait, d'avoir une politique inclusive par rapport à ces publics cibles dont on parle. Donc oui, ça a un budget, mais il faut le porter, il faut que ça soit décidé aussi par la collectivité.
C'était ça ma question, vous êtes porté par votre collectivité.
Oui.
D'accord.
Ça veut dire que les collectivités le définissent comme une politique aussi de communication via les bibliothèques vers ces populations, quelque part. C'est, ça s'intègre dans une approche plus globale, non, des politiques locales.
Oui, je pense qu'effectivement, là, les médiathèques sont vraiment vues comme un endroit qui donne des outils en fait aux citoyens, aux personnes qui habitent dans le quartier de mieux appréhender le monde dans lequel ils vivent et que là on rencontre notre mission est là finalement.
Je voudrais savoir, est-ce que vous rencontrez qu'un public de migrants appartenant à des associations ou des publics migrants venant d'ailleurs, hein? Est-ce que c'est seulement sous cette forme d'association que vous les recevez ?
Non, pour les inscriptions, on peut avoir des personnes qui viennent tout juste d'arriver. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une inscription pour une dame qui venait du Kenya, qui venait seule, sans partenaire derrière, finalement. Alors après, c'est à nous aussi de rediriger. Si la personne nous pose des questions et qu'on n'a pas, toutes les ressources nécessaires, on peut la rediriger vers les services compétents. Mais en tout cas, pour les inscriptions, effectivement, il y a des personnes qui viennent...
En fait. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous mettez en place des ateliers de conversation justement pour ce public-là, bien défini ?
Alors, les ateliers de conversation, en fait, sont ouverts à tous. C'est-à-dire qu'on passe par une association, mais qu'il y a aussi des publics, des personnes seules qui viennent spontanément participer aux ateliers. Oui.
D'accord. Et ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une demande de leur part ? Est-ce qu'il y a une préférence en ce qui concerne les sujets que vous proposez, des thématiques sur lesquelles ils voudraient travailler?
Pour les ateliers de conversation, en général, on travaille ça en amont avec l'association, la personne qui accompagne les personnes, et on essaye d'avoir un angle à la fois ludique qui puisse aussi donner qui puisse donner la possibilité en fait de travailler sur les différents fonds, alors aussi bien sonores, visuels et imprimés qui sont disponibles dans la médiathèque. Et après, ça se travaille en amont. Mais oui, si les personnes souhaitent travailler sur une thématique en particulier, on peut travailler sur cette question-là.
D'accord. Et vous arrivez à les fidéliser ou pas ? À les faire revenir ? Parce que c'est ça le gros problème.
Sur Ulysse, par exemple, que je connais bien, on reçoit une vingtaine de personnes chaque semaine aux ateliers de conversation. L'année dernière, 2015, on recevait 20 femmes, parce que c'était des femmes essentiellement. Aux ateliers de conversation.
Et elles ne sont pas revenues cette année.
Les parcours de vie ont fait qu'elles ont déménagé, qu'elles ont trouvé du travail, étaient occupées à ce moment-là. Certaines reviennent. Ou certaines reviennent, mais seules. C'est-à-dire qu'elles ne viennent plus dans le cadre des ateliers de conversation, mais viennent pour elles, pour leurs enfants, etc. Et là, on a tout gagné.
D'accord. Donc, il y a quand même du progrès qui est fait. C'est bien.
J'avais l'impression que votre public était beaucoup féminin. Alors, où sont les hommes ? Et est-ce que vous avez des personnes âgées ? Est-ce que vous travaillez en lien avec leur mémoire aussi pour les maintenir éveillés et dynamiques ? Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce public âgé et leur parcours de migration et de vie en France ?
Alors, les hommes, très souvent, dans le milieu, de toute façon, dans les milieux associatifs en général, c'est très souvent les femmes qui s'en prennent de ces... qui utilisent en fait ces biais-là. Les hommes, on les voit moins souvent, mais on a quand même des hommes qui viennent en médiathèque, notamment, bon, alors là, c'est dans un autre cadre, mais des petits déjeuners, par exemple, parents-enfants qu'on organise, on a très souvent des pères qui accompagnent leurs enfants. Concernant la mémoire, on a organisé des ateliers autour de... Alors, pas forcément de la mémoire migrante, mais en tout cas autour de la mémoire, soit du quartier, ou voilà, avec des associations pour faire soit des expositions photos, soit pour des vidéos, voilà, retraçant la vie d'un quartier ou accompagnant en fait les mutations autour d'un quartier.
Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, ce qui marche, on a compris, mais quelle est votre marge de manœuvre, les regrets, les freins que vous avez encore? C'est peut-être ce qui était sous-jacent, ce que vous demandiez. Et le public qui n'est pas déjà dans le cadre associatif ou encadré, ce public, on ne voit pas, en fait. Quelle est votre marge de manœuvre, ou en tout cas vos regrets, si vous en avez ?
Alors, effectivement, la démarche est bien sûr perfectible, hein, et on essaye d'être le plus... d'aller au plus loin de la démarche... Alors, Par exemple, il y a des, effectivement, il y a énormément de personnes qu'on ne touche pas encore, mais par le biais des, d'associations, de partenariats avec la maison de quartier, de forums, de, voilà, par ce biais-là, on peut essayer de en tout cas, de prouver qu'on existe, de montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on est là pour eux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qu'on ne touche pas, c'est sûr. Et puis les regrets aussi, ça peut être, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'édition. Voilà. L'édition en langue arabe dialectale ou bien en langue africaine, où il y a encore du travail, mais qui n'est pas vraiment de notre sort.
Bonjour, j'avais une question pour l'étude intermède. Je viens de vérifier, en fait, sur le site, on ne peut pas la télécharger ou on peut la trouver.
Oui, bah, je vais faire en sorte que ce soit possible. Voilà. Et puis, alors moi, c'est simple, vous avez vu mon nom. Donc, naima.yai@gmail.com. Donc, vous m'écrivez et avant minuit, je vous la renvoie. Voilà.
Comment les musées ont accueilli cette étude et est-ce que c'est vraiment un livre banc qui va servir pour développer de nouvelles stratégies en lien avec le public?
En fait, l'idée, il ne s'agissait pas de réinventer la poudre et c'est pas non plus d'être délirant en disant oui, il faut doter les services de médiation de 3 millions d'euros, ça va être formidable. On voit bien qu'il y a des choses d'ailleurs extraordinaires qui se passent chez vous. Je disais à madame que moi je préconise et elle a déjà tout mis en œuvre, donc c'est très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des territoires, des laboratoires très, très avant-gardistes, comme la Plaine Commune, qui est très dynamique sur ces questions, la diversité culturelle, des publics de proximité. Et puis, il y a des territoires où c'est un désert sur ces questions. Et nous, on s'adresse à tout le territoire. C'est-à-dire qu'on a pris la région Île-de-France parce qu'elle est pionnière en la matière pour des raisons historiques. C'est un bassin d'emploi qui a attiré la majorité des flux migratoires, si on les compare à d'autres bassins d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la mission Vivre Ensemble qui existe en Île-de-France, qui est portée avec le ministère de la Culture aussi, et donc qui est très dynamique et qui a créé pas mal de choses. Donc l'idée, c'était de dire, bon, avec vos petits moyens, avec votre énergie, avec votre bienveillance, parce que c'est important aussi dans ce dossier, il n'y a pas de certitude, c'est de dire qu'est-ce qui est faisable avec les moyens du bord, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Vous disiez qu'il y avait des moments d'échange informel dans vos propositions, mais parce que vous avez la pratique de ces publics, vous avez déterminé, j'imagine, assez vite que c'était nécessaire, mais peut-être dans d'autres territoires du pays, c'est pas évident, c'est pas des pratiques qu'on a, on n'a pas forcément le même maillage de personnes relais avec des structures associatives. La structure dont vous parlez, c'est les Femmes du Framboisin, c'est ça? Elle est très importante, elle est ancienne, elle est portée par des figures militantes. Et on n'a pas forcément ce type de structure partout en France. Et donc l'idée, voilà, c'était de dire, par rapport à une expérience qui est très francilienne, avec des musées nationaux. En fait, on a fait l'Institut du monde arabe, le Musée national d'histoire de l'immigration, la Bibliothèque nationale de France, parce qu'elle a un service dédié à la question et qu'elle a aussi des expositions et une offre de programmation. Et ensuite, un musée de type local, qui est le musée de Saint-Denis, qui a des collections archéologiques, puis une programmation importante et qui a une pratique aussi comme vous de ces publics, et l'écomusée du Val-de-Bièvre, parce qu'il y a des écomusées aussi qui sont à l'avant-garde de certaines propositions de médiation, d'exposition et de travail avec les habitants. Et l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des expériences qui sont menées. Par exemple, le musée national est assez pertinent sur les publics alpha FLE et a déjà proposé des choses. Bah, peut-être qu'on peut s'en inspirer, s'adosser à ce type de proposition pour le faire ailleurs, surtout quand on s'intéresse de plus en plus à ce public, parce que quand on dit public migrant, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, il y a des primo-arrivants qui ont des doctorats qui sont arrivés la semaine dernière, et puis il y a les flux migratoires du XXe siècle avec des gens qui sont là depuis 50 ans, mais qui parlent à peine la langue, qui n'ont jamais mis les pieds dans une bibliothèque ou un musée. Donc c'est un défi qui est immense. Et on a, voilà, le croisement de problématiques qui sont liées au territoire, à la catégorie sociale, à la situation de précarité ou pas, à la question du rapport à la langue, au niveau d'instruction et aux origines. Donc, et puis dans quel projet ça s'inscrit quand on apprend, quand on est à un cours d'alphabétisation, parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'il y a un contrat d'accueil et d'intégration qu'on a signé, on se retrouve pendant quelques mois, on va dire, public captif, mais après, ils disparaissent dans la nature. Donc, comment travailler avec ce public-là qui vient d'arriver, qui va peut-être disparaître, qu'on ne va plus retrouver dans les propositions? Et à côté, il y a des publics qui sont là depuis longtemps, j'ai presque envie de dire depuis toujours, et qui sont dans des dispositifs d'accompagnement, et avec lesquels on peut travailler sur le long terme, parce que ce n'est pas une histoire de contrat d'accueil intégration, c'est dans un projet d'insertion sociale, d'accompagnement, et c'est vrai que c'est beaucoup de femmes. Et la question des hommes se pose, hein, la question du genre se pose, la question des générations se pose, quid de leurs enfants, quid de la question du quartier. Vous parlez des projets histoire-mémoire des quartiers, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, et il y a aussi des productions qui sont intéressantes, et moi je pense que l'axe central c'est communiquer, c'est-à-dire que en vous écoutant, je me dis, mais pourquoi je ne connais pas ce travail? C'est dommage pour moi. Parce qu'effectivement, c'est formidable ce que vous faites. Et je pense que sans connaître du tout ce qui se passe au niveau des bibliothèques, la mise en réseau de ce que vous faites ici et ailleurs peut déjà être une première étape extraordinairement pertinente pour améliorer le travail avec ces publics. Et l'inclusion de ces publics dans vos propositions, je le vois dans ce que vous proposez, me semble être la préconisation la plus importante, c'est de l'inclure dans la co-construction de ce qui peut être proposé en leur direction.
Bonjour, j'ai une question pour Barbara Abdelila Bauer. Vous avez parlé de idéologie monolinguiste en France. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu?
Ben, vous savez, le lien à la langue française est un lien très fort et un lien particulier. Et nous sommes un pays officiellement monolingue. Vous savez peut-être que depuis 1992, on a ajouté un article à la Constitution. La France est une république et sa langue est le français. Ça date de 1992, ça veut tout dire. Et cette idéologie monolingue, c'est-à-dire, ne laisse très peu de place, en fin de compte. C'est une longue histoire, hein. Les historiens peuvent vous répondre mieux que moi. Ça date d'il y a des siècles et des siècles. Et puis, un exemple pour moi très parlant, c'est toujours l'Académie française, qui est le conservateur de cette langue française. Et la langue française, on parle toujours de la beauté de la langue. Et étant allemande moi-même, d'origine allemande, bilingue, ayant appris le français parfaitement étudié à l'université, je peux comparer avec l'Allemagne. Et l'allemand, ce n'est pas du tout la même chose. On n'a pas cette idéologie-là. L'allemand est facilement influencé et perméable et pénétré par d'autres langues. Vous savez, il y a des créations de mots. Ici, on statue sur la langue, qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui n'est pas admis. Et il est très important en France d'avoir différents registres de langue et de savoir parler en fonction, donc d'avoir ces connaissances pragmatiques, de savoir parler en fonction de l'interlocuteur. Et puis, il y a quelques années, il y avait Jacques Toubon, la loi Toubon, qui protégeait encore une fois la langue française contre les anglicismes. Vous savez, il est interdit d'utiliser les anglicismes normalement. Voilà, tout ça fait que nous sommes dans ce mouvement de dire tout ce qui n'est pas français n'est pas bon. Il suffit de parler français et de bien parler français. Alors, des gens qui sont en apprentissage du français et qui oseraient mélanger ou pas maîtriser parfaitement, bon. Toute langue, c'est pour ça que je dis que les autres langues qui ne sont pas des langues de prestige et aussi belles que le français, sont un peu dévalorisées.
Voilà. Je vous propose de prendre une dernière question dans la salle.
Bonjour, oui, c'était pas forcément une question, c'est une remarque en résonance avec madame autour des lectures bilingues. Le département de Seine-et-Marne a été jumelé pendant un temps avec un département roumain. Et j'avais participé à une expérience intéressante avec des jeunes autour de la lecture d'albums, puisqu'on ciblait de former des bibliothécaires, d'accompagner des bibliothécaires roumains dans les villages pour avoir des compétences en matière de littérature de jeunesse et pouvoir travailler sur la médiation. Et à cette époque, en Roumanie, il y avait très peu de l'édition était très 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 déficitaire, et donc on était parti de la littérature de jeunesse française. On avait acheté des livres. On avait fait un travail de traduction et on avait associé des jeunes. C'est une expérience qui avait été très intéressante de ce point de vue, puisque des jeunes du lycée de Roumanie qui étudiaient le français se sont trouvés en situation de traduire des albums français qui font partie du patrimoine, je dirais, mondial, hein, des classiques qui peuvent être traduits, qui ont une portée universelle. Et c'est dans ce sens, la littérature, quand elle est bonne, les œuvres, enfin bonne, quand elle est forte, elle a une portée universelle. Et c'est, par contre, la transmettre, bien, ça passe par la langue. Et cette expérience de jeunes qui ensuite sont allés lire les albums aux enfants a été vraiment une expérience très intéressante. Et c'est un travail qu'on aimerait mener, nous, en Seine-et-Marne, autour des langues des communautés, par rapport à des albums de ce patrimoine qui ne sont pas traduits dans toutes les langues. Et il y aurait un travail à faire avec des personnes ressources qui sont un vivier, qui sont méconnues, qui sont parfois, qui ont dans leur pays d'origine, qui viennent d'autres pays en ayant des compétences linguistiques et qui serait intéressant d'associer autour de traductions. Et ces temps de traduction, ça permet de s'interroger sur quels mots on utilise. Il y a des spécificités, il y a des mots uniques dans une langue, et c'est un travail très fructueux sur la langue et la culture.
Je me permets de mentionner le prix littéraire de la Porte Dorée, qui est un prix qui a, le 8 juin dernier, décerné sa septième édition à Beauenduit pour un très bel ouvrage sur la mémoire de son père, et dire qu'effectivement, nous, on remarque dans la littérature française, ces écrivains venus d'ailleurs enrichissent la langue et apporte des façons d'écrire et de rythmer la langue tout à fait nouvelles. Et je pense qu'un jour, il y aura un travail très conséquent sur cette littérature contemporaine de langue française, avec toutes ces contributions étrangères. Nous allons peut-être arrêter cette table ronde. J'espère que, à la fois en termes de questionnement, d'énergie, vous suscitez des initiatives et vous engagez à réfléchir en commun et à prendre des contacts, nous aurons rempli notre mission. En tout cas, on remercie nos trois intervenantes d'être venues nous exposer leurs réflexions.